Bonjour à toutes et à tous. Deuxième épisode de notre série intitulée « Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es ». Hier, nous avons évoqué le rêve pavillonnaire et le lent désenchantement qui s'en est suivi. Après la France des lotissements, nous gagnons à présent les grandes métropoles où vit une population plus aisée, en quête d'un autre mode de vie. Un choix de l'hypercentre qui pourrait être remis en cause par la pandémie et les confinements à répétition. Pourquoi vivre dans un appartement quand on peut habiter une maison avec jardin ? La Covid va-t-elle transformer notre rapport à l'urbanité ? Voilà les questions qui vont nous intéresser dans l'heure qui vient. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Parler du choix de la grande ville, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Sophie Chevalier, anthropologue, professeure à l'université de Picardie Jules Verne, directrice de l'équipe de recherche Habiter le Monde. Avec nous également à distance Patrick Le Gallès, politiste et sociologue, directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes et politiques comparées de Sciences Po, et doyen de l'école urbaine de Sciences Po. En fin d'émission, nous retrouverons le journal de l'écho de l'indispensable Xavier Martinet. Sophie Chevalier et Patrick Le Gallès, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dès le 19e siècle, on parle de monter à Paris. C'est ce que fait, rappelez-vous, le jeune Frédéric Moreau, le héros de l'éducation sentimentale de Flaubert. Et c'est aussi l'histoire de ces habitants du 14e arrondissement de Paris, filmé par Agnès Varda pour son documentaire « Daguerréotype ». Il est sorti en 1976. Extrait.
Je m'appelle Marie. Je suis née dans un petit pays entre Rennes et Saint-Brieuc, qui s'appelle exactement Quédillac. C'est sur la route nationale 12.
Je m'appelle Jean Guillard. Je suis né à Bois-Gervilliers, en Ille-et-Vilaine. Je suis venu à Paris en 1954. J'avais environ 42 ans.
Je m'appelle Janine. Je suis née à la campagne, dans un petit village qui est dans la Sarthe, à Château-Bas-des-Coudrais. Et à l'âge de 19 ans, je suis montée à Paris en 1955.
Je m'appelle Yves. Je suis née dans un petit village de 500 habitants, à Saint-Aignan-sur-Sapte. Et je suis montée à Paris en 1955. Et en 1962, je suis venue ici, dans la rue Daguerre.
L'air tremble un peu quand chacun nomme son lieu de naissance, son village à l'heure enfantine. Ainsi, voilà une vérité sur Paris 14e. Son trottoir sans la campagne.
Son trottoir sans la campagne. Patrick Le Gallès, ce que l'on entend dans ses témoignages, c'est que ce qui motive avant tout le désir de vivre dans une grande ville, que ce soit à Paris ou ailleurs, ce sont les avantages économiques qu'elle procure.
Alors, d'abord, ça me touche beaucoup parce que, étant moi-même pas très loin des petits villages de Bretagne que vous avez évoqués, je me sens tout à fait en empathie avec ces témoignages et ce qui prouve que ces modes de faire ont continué à fonctionner. Alors, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles il faut insister. Un, les gens partent pour les avantages économiques, mais aussi parce qu'ils veulent souvent fuir la campagne dans cette époque-là. Il faut se rappeler qu'une partie des villages de l'ouest de la France, par exemple, vous avez encore une propriété immobilière des terrains qui peut appartenir à des familles nobles, à des grandes familles. Vous avez des villages qui sont contrôlés par la Légion, parfois par des nobles qui sont encore les maires des villages. Et il y a beaucoup de gens qui partent aussi pour fuir l'environnement un petit peu oppressant d'une partie de la campagne. Rappelez-vous, il y a une vieille formule qui venait des campagnes allemandes et qui disait « l'air de la ville rend libre » au 14e, 15e siècle. Ce qui voulait dire, c'est pas tellement qu'on était libre, mais c'est surtout qu'on pouvait échapper au servage et aux relations féodales. Donc, encore aujourd'hui, que ce soit un peu moins en France, bien sûr, mais on le voit beaucoup dans d'autres parties du monde, partir, c'est aussi parfois partir d'un milieu rural dans lequel on peut avoir des conditions de vie agréables, on peut aussi avoir des conditions de vie très oppressantes et des opportunités économiques extrêmement limitées. Donc, il y a aussi ce facteur-là. Et puis, évidemment, partir, il y a l'aspect espérance. c'est-à-dire d'avoir une vie meilleure, d'avoir un emploi. Et vos témoignages sont des années 50, en pleine période d'industrialisation en France. Et en fait, beaucoup de gens partent de la campagne pour aller dans les métropoles régionales. Puis ensuite, ils vont à Paris. Souvent, c'est pas directement Paris. Il y a souvent une étape entre les deux. Donc, c'est d'espérance dans votre vie. Et ils ont d'ailleurs raison. Il faut toujours se rappeler que les villes, c'est quand même des formidables ascenseurs sociaux. C'est des escalators. C'est-à-dire que, en moyenne, enfin, d'après les calculs qu'on peut faire, lorsque les gens vont dans les villes, pas tous, ça n'empêche pas toutes les inégalités du monde, mais il n'est pas faux de prétendre que pour une partie des gens, ça permet une grande mobilité sociale, soit pour soi-même, soit pour ses enfants. Donc c'est ça qui représente la ville.
La ville, dans les années 50 et peut-être encore aujourd'hui, est ce lieu d'ascension à la fois sociale et économique, Sophie Chevalier.
Oui, j'ai envie de dire que la grande ville, ou même pas nécessairement la grande ville, ça joue souvent le rôle de rite de passage. Je pense aux étudiants, mais pas seulement aux étudiants qui viennent à Paris, mais aussi dans les métropoles provinciales. C'est l'endroit, en fait, où on fait une expérience de la ville. On part peut-être pour la première fois de sa famille, de son lieu d'origine, petite ville, campagne, pour se confronter à un milieu urbain, à un nouveau mode de vie, à une nouvelle sociabilité. Ce que je voulais dire aussi, ce qui m'a touchée avec le témoignage, c'est quand j'ai fait des enquêtes dans les années 80-90, à Nanterre, j'avais encore des récits des origines rurales. Je ne suis pas sûre qu'encore aujourd'hui on retrouverait ce même type de récits. Mais ça signifie aussi qu'une des spécificités des Parisiens, d'une certaine manière, c'est qu'ils gardent souvent encore un pied à la campagne. Et peut-être plus que dans d'autres villes, je pense à Londres, où j'ai aussi travaillé pendant quelques temps, les discours des gens étaient beaucoup moins attachés à des origines rurales. Et là, ça veut dire aussi, et on l'a vu avec la pandémie, la possibilité finalement de retourner dans le monde rural ou dans une petite ville ou un village pour fuir la grande ville, à certains moments historiques, on va dire, spécifiques comme la pandémie qu'on vient de vivre.
Alors le problème aujourd'hui, c'est que dans les grandes agglomérations, la demande de logement excède l'offre, ce qui fait monter les prix, Patrick Le Gallès, parfois de façon exponentielle.
Alors on a effectivement cette là, donc ça vous montre déjà que ces villes, notamment ces capitales régionales en France, qui on connaisse la plus forte croissance démographique, hein, en France, on a une grande évolution sur les 30-40 dernières années, c'est vraiment la montée en puissance, l'accroissement démographique des villes. Allô ?
On vous entend
toujours. J'entends plus. Et donc d'une part, et puis le développement de la région parisienne. Et depuis la fin des années 90, on a eu un cycle d'augmentation très forte des prix du logement, qui s'explique en partie par cette attractivité continue des villes et des centres, d'une part, mais de l'autre, qui s'explique aussi par la financiarisation de l'économie, la disponibilité de beaucoup de liquidités, la baisse des taux d'intérêt, qui font que pour un ensemble des capitaux en France comme dans le monde, acheter du foncier, acheter des appartements, acheter des maisons dans les parties les plus valorisées qui sont les centres des grandes métropoles, a poussé très fortement à la hausse des prix. Donc on a eu deux facteurs, on a l'attractivité des villes et on a un capitalisme qui devient plus urbain, donc la production de richesses depuis 30-40 ans se concentre davantage dans ces métropoles. Donc ce facteur-là, plus l'attractivité en termes de marché du travail, plus les évolutions de la financiarisation ont fait que le prix du logement ont augmenté extrêmement fortement dans les centres des villes, pas toutes, mais dans beaucoup de villes. Et je me permets d'insister sur le fait que c'est vrai en France, mais c'est vrai également aux États-Unis, et c'est même vrai en Chine. C'est un des grands problèmes des Chinois à Pékin ou à Shanghai, c'est que le prix du logement a aussi très très fortement augmenté. Donc c'est une dynamique mondiale.
Des prix du logement qui ont augmenté et qui obligent une certaine partie de la population de ces grandes villes à partir, à aller habiter plus loin dans la périphérie, Sophie Chevalier.
Oui, et même j'ai envie de dire qu'en particulier en ce qui concerne l'agglomération parisienne, ça déborde même dans des villes à proximité. Si je pense à la ville dans laquelle je travaille, Amiens, elle accueille quand même une population qui est partie de Paris et qui continue à travailler à Paris. Donc vous avez la même chose avec d'autres villes comme Rouen ou Tours. Hein. Et là aussi, ça a une influence sur l'immobilier.
Alors il y a eu ce mouvement d'exode rural qui a été extrêmement important et face à l'impossibilité de loger tout le monde dans la ville, des centres secondaires en périphérie sont apparus dans les années 70. Dans l'avant-propos de son journal du Dehors, Annie Ernaux décrit la ville nouvelle de Cergy Pontoise. Écoutez. « Depuis 20 ans, j'habite dans une ville nouvelle, à 40 km de Paris, Cergy-Pontoise. Auparavant, j'avais toujours vécu en province, dans des villes où étaient inscrites les marques du passé et de l'histoire. Arrivée dans un lieu sorti du néant en quelques années, privé de toute mémoire, aux constructions éparpillées sur un territoire immense, aux limites incertaines, a constitué une expérience bouleversante. J'étais submergée par un sentiment d'étrangeté, incapable de voir autre chose que les esplanades vantées, les façades de béton rose ou bleu, le désert des rues pavillonnaires. L'impression continuelle de flotter entre ciel et terre dans un no man's land. Mon regard était semblable aux parois de verre des immeubles de bureaux, ne reflétant personne que les tours et les nuages. J'ai prêté attention aux propos qui s'échangeaient dans le RER. J'ai eu envie de transcrire des scènes, des paroles, des gestes d'anonymes qu'on ne revoit jamais, des graffitis sur les murs, effacés, aussitôt tracés. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, provoquait en moi une émotion, un trouble ou de la révolte. Ainsi est né ce journal du dehors que j'ai poursuivi jusqu'en 1992. Patrick Le Gallès, la naissance de la banlieue, s'accompagne de nombreuses critiques, comme on l'entend ici, sur le caractère uniforme et sans vie de ces nouvelles constructions.
Bien sûr, et puis merci de nous avoir mis Annie Ernaux, c'est toujours un grand plaisir. Je peux bien comprendre, c'est des vieilles histoires. Vous savez, une des plus premières grandes métropoles du monde, c'est Rome, à la grande époque romaine. Et déjà à l'époque, on avait à peu près les mêmes critiques sur la banlieue de Rome. Donc historiquement, on a toujours eu, quand vous avez de la croissance urbaine, vous avez à la fois de la densification au centre et de la croissance de l'étalement urbain et de la banlieue. Donc historiquement, c'est un très grand classique, sauf exception parfois, comme chez les Anglais, où on a ces critiques diverses et variées sur ce qui se passe dans la banlieue. Et dans le cas de la région parisienne, on sait bien que la banlieue s'est vraiment très fortement développée au 19e siècle, comme dans les autres grandes métropoles européennes. Et rappelez-vous que la banlieue, au départ, c'est quand même beaucoup des ouvriers qui vont construire eux-mêmes leurs maisons, qui vont s'organiser. Rappelez-vous les pages de Céline, rappelez-vous plein d'écrivains qui ont écrit sur tout ça. Et donc, la manière dont on pense aujourd'hui la banlieue, c'est aussi cet héritage de longue durée. Et c'est un peu trompeur, parce qu'en fait, dans les banlieues, on a en fait différents types de banlieues. On a des villes nouvelles, celles dont nous parle Annie Ernaux, et donc ces centres secondaires organisés par l'État. On a bien sûr des centres secondaires qui vont être organisés par les acteurs privés eux-mêmes, parfois les promoteurs immobiliers eux-mêmes. Après tout, une partie de la banlieue ouest parisienne a été très très fortement organisée par les promoteurs privés. Et puis vous avez des bouts de banlieue qui peuvent être au départ de l'habitat informel, qui peuvent devenir de l'habitat populaire, qui ont été organisés par les ouvriers. Donc dans cette catégorie banlieue, on voit des choses extrêmement différentes. Et après, l'idée de la vision un peu classique, elles sont sans vie, etc., c'est quand même souvent des caricatures. On voit des choses extrêmement différentes dans tout ce tissu urbain. Et bien sûr, lorsque le cas extrême, c'est la ville nouvelle, hein, puisqu'on, comme elle le dit très bien, on part de rien, sans histoire. Mais dans beaucoup d'autres bouts de banlieue, on a plutôt des mélanges entre des villages ruraux qui existaient, entre des nouvelles constructions, entre des populations nouvelles qui arrivent. Et donc, ce sont des mixtes et des hybridités très, très intéressantes dans toutes ces banlieues.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, avec l'émergence de ces villes nouvelles, les géographes ont cru que c'était la fin de la ville à l'européenne, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Sophie Chevalier, dès les années 80, on a assisté à un retour dans les centres des grandes métropoles, notamment à cause de l'essor des services.
Oui, alors j'aimerais juste revenir sur cette notion au statut de la banlieue. C'est vrai que, comme disait Patrick Le Gallès, ça a été vite considéré sous le terme problème de banlieue. C'est un peu, en tout cas, ce qui est apparu dans ma discipline. Ensuite, dans une deuxième étape, quand on a été voir de plus près ce qui s'y passait, quand on a fait des ethnographies, en particulier des ethnographies qui ont été faites à Cergy en particulier, on voyait que c'était pas du tout des univers uniformes, des univers sans vie, etc. On a pu montrer toute la sociabilité, la dynamique qu'il y avait dans ces quartiers-là. Donc, on est revenu un peu sur cette idée de considérer ces espaces-là, en fait, comme seulement des espaces à problème, hein, même si ça revient dans les discours politiques. Donc ça, c'est une première chose. Effectivement, l'attrait des centres-villes, hein, que ça soit l'attrait de Paris intramuros ou des centres-villes, c'est aussi l'offre de services, l'offre commerciale qu'il y a. Et les possibilités, les multiples possibilités de construire des sociabilités différentes. à la fois des sociabilités avec un minimum d'interaction hein, dans les lieux de passage, et puis aussi des sociabilités qu'on peut construire dans des espaces publics, comme les cafés, les bars, qui évidemment aujourd'hui nous manquent beaucoup.
Mais alors il y a effectivement ce retour dans les centres des grandes métropoles dans les années 80 et une accélération dans les années 2000 qui est aussi liée, Patrick Le Gallès, à la politique de décentralisation vers les villes régionales.
Alors en France, vous avez absolument raison, c'est effectivement ça qui s'est passé. J'aurais vraiment insisté sur cette rupture de fin des années 70, parce que vous avez très très justement mis en évidence cette rupture. Rappelez-vous quand même ces années 70, vous aviez les punks à Londres qui chantaient No Future, la ville de New York qui était en faillite, beaucoup des métropoles européennes perdaient des habitants, les villes industrielles étaient en crise, et on avait toute une idéologie des classes moyennes, de la France des villes moyennes, portée par le président Giscard d'Estaing, par exemple, qui nous a quitté récemment. Donc on a vraiment pensé que on allait vers cette fin des villes, portée aussi par l'idéologie un petit peu post-68ard. Et puis, début des années 80, il se passe exactement l'inverse. Hein. Donc, et c'est très lié à la transformation de l'économie, à la transformation du capitalisme, c'est-à-dire une économie de services avec beaucoup de gens qualifiés, de finances, de nouvelles technologies. Et la production de richesses, hein, ce nouveau capitalisme, il va prendre place dans les villes. Hein. Donc le premier moteur, c'est un moteur économique absolument massif et qui va s'accélérer avec les processus de globalisation. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, on voit ça pas seulement en France, c'est vrai en Europe, ça a été en Asie et aussi aux États-Unis. Et puis ensuite, autour de ça, les nouvelles générations qui vont arriver dans ces villes, ils vont être beaucoup moins sensibles au modèle plus classique de maisons avec des jardins, et ils vont inventer des modes de vie urbains, ce qui va amener cet embourgeoisement, parfois gentrification des centres-villes, et on va avoir des nouvelles activités économiques, pensez par exemple, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même pas totalement faux, à la fois au rôle des banques, ou au rôle des start-up, ou à la production de technologies. Les universités vont redevenir de plus en plus urbaines, rappelez-vous, on les avait mises souvent en périphérie, en fait beaucoup d'universités ou de centres de recherche vont se remettre dans les villes, ou assez proches des centres, disons pas très loin forcément, et donc toute cette dynamique va à produire aussi des nouveaux modes de vie. Et puis, on va avoir l'accélération du modèle classique. C'est-à-dire que le modèle classique d'une grande ville, c'est comme un cœur, quoi. Ça aspire plein de gens qui viennent et ça recrache plein de gens. Et c'est vrai à Lyon, comme c'est vrai à Paris, comme c'est vrai à Rouen. Mais c'est un filtre. Il y a des gens qui restent et des gens qui partent. Ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que les gens qui partaient, par exemple dans les villes américaines, les gens qui restaient, pardon, c'était les ghettos noirs et des gens qui pouvaient pas forcément aller ailleurs. Et les gens qui partaient, c'était les classes moyennes et supérieures américaines qui sont parties vivre et qui ont inventé le mode de vie suburb dans les banlieues riches américaines. Ce qu'on a vu en Europe, c'était pas ça, parce que les centres-villes sont toujours restés importants, hein, ils ont jamais complètement décliné, mais avec cette vague d'urbanisation des années 80, 90, 2000, on a vu l'attractivité qui s'est décuplée pour ces centre-ville et ces nouvelles générations qui ont inventé aussi des modes de vie avec beaucoup plus de professions qui vont être liées aux dimensions culturelles et artistiques. Tous ces modes de vie de consultants, de gens qui vont être dans des activités très qualifiées, avec des relations qui sont pas simplement celles d'appartenance à une grande entreprise. Et donc il y a tout ce milieu urbain qui va retrouver une dynamique très forte et avec beaucoup de gens, soit d'abord des jeunes et puis ensuite qui vont peut-être vouloir prolonger leur mode de vie jeune plus longtemps et qui vont trouver que leur qualité de la vie c'était une autre qualité de la vie que ce qui était classiquement vu comme qualité de la vie à la campagne.
Et c'est donc dans ce contexte
urbaine, partout dans le monde.
Il a fallu à la fois faire de l'étalement urbain, Sophie Chevalier, mais aussi commencer à verticaliser les villes. C'est ce qui s'est passé à Lille, Lyon ou Marseille.
Oui, mais pas à Paris, on va dire quand même. Alors c'est vrai, j'aimerais revenir sur cette idée aussi de renouvellement de la population dans les centres-villes. Avec un autre mode de vie et y compris d'ailleurs un mode de vie familial avec des enfants. Les enfants dans la ville, peut-être il y a 30 ou 40 ans, on se disait mais non, les enfants c'est une petite maison avec un jardin, etc. Aujourd'hui, je pense que ça a profondément changé et les classes moyennes qui habitent le centre de Paris ne voient pas d'inconvénient à avoir des enfants dans la ville. Hein. Il y a tout un ensemble de services aussi qui s'est organisé autour de l'enfance. Les enfants, finalement, ont repris pied dans la ville. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est une perspective intéressante à avoir sur le milieu urbain.
Alors, c'est important, effectivement, ce que vous soulignez sur ce mode de vie spécifique à la ville, un mode de vie tel qu'on l'imagine, fait de rencontres et de sorties. Écoutez ces deux extraits de films. D'abord, Jeune femme de Léonore Serrail, sorti en 2017, puis Mes provinciales de Jean-Paul Sivérac, sorti la même année.
Vous avez un problème avec Paris ?
Pas mal, ouais. Je trouve que c'est une ville qui n'aime pas les gens. Pas toi.
C'est une très belle ville.
Ah ouais. Qu'est-ce que t'apportes à toi, par exemple?
J'ai l'impression qu'on peut rester incognito.
Depuis quand c'est une qualité, ça?
Ça me va à moi et les femmes sont belles.
Allez, voilà. Et quand même, vous nous sortez toujours la même soupe, les mecs. Hein.
J'ai pas dit vous, j'ai dit les femmes. Et arrêtez de me tutoyer.
Pardon?
Qu'est-ce que tu viens faire ici?
Fuck du cinéma, à Paris 8.
Ah, je crois que c'est bien là-bas, non?
Mais puisque c'est pas seulement théorique. On y fait beaucoup de courts-métrages aussi.
Chouette. Moi, je suis au Beaux-Arts. Tu connais déjà Paris?
Non. Paris non plus, je connais pas trop.
Oh, ça bouge pas beaucoup, quoi. New York, Berlin, ça bouge plus, c'est plein d'artistes qui se parlent. Ici, les gens restent un peu dans leur coin, mais on s'amuse bien. Tu aimes t'amuser?
Ouais, je crois.
Sophie Chevalier, que vous inspirent ces deux extraits? La ville, c'est ce qui permet à la fois l'anonymat, l'émancipation, la liberté.
Voilà, c'est ça. Oui, ça peut être vécu à la fois comme une grande liberté, mais ça peut être aussi vécu comme une solitude. Et à la fois, on peut moduler les interactions qu'on a et la sociabilité qu'on peut avoir avec des rencontres de passage, hein, dans des lieux. Ben, je sais pas si vous allez vous changer de métro au hall. Ben voilà, il y a pas d'interaction réelle avec les autres, sauf de les éviter. Et puis ensuite, la construction peut-être réelle avec la répétition des mêmes lieux, la familiarité avec des lieux, d'une vie de voisinage avec des relations, des interactions qui peuvent être un peu plus personnalisées. C'est aussi la possibilité d'avoir une présentation de soi, d'échapper à des déterministes familiaux, d'origine dans la ville.
La possibilité d'assumer une identité qu'on ne pourrait pas forcément assumer ailleurs.
Je pense effectivement aux étudiants, je pense que c'est très important. Enfin, quand je vois les étudiants dans les villes même comme Amiens ou Besançon aussi où j'ai travaillé, c'est une possibilité d'échapper à la sociabilité d'un petit lieu, d'un village, au groupe familial, et de pouvoir se créer sa propre identité, hein. Peut-être des identités parfois un peu marginales qui seraient mal acceptées dans des lieux plus petits ou plus traditionnels.
Et puis vous parliez du retour des enfants en ville, Sophie Chevalier. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, Patrick Le Gallès, puisqu'on a effectivement plus l'idée, l'image d'une ville qui correspondrait à un certain cycle de vie, celui des célibataires ou des couples sans enfants?
Oui, alors vous avez raison. D'abord, cette dynamique-là, on voit un peu la même chose aussi dans des petites villes, et comme l'a dit Sophie Chevalier très justement, dans les capitales régionales, hein, on voit cette dynamique-là, c'est un peu la même, hein. Il n'y a pas que Paris, on peut trouver ça aussi dans des petites villes et dans des capitales régionales, première chose. Deuxièmement, effectivement, ce que montre ce retour des enfants ou la mise en évidence de cela, c'est le fait que, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, avec les politiques de décentralisation, on a eu énormément d'investissements dans les villes. Les villes, elles ont besoin de beaucoup d'investissements publics et privés pour pouvoir se développer correctement. Il y a besoin de développer beaucoup de services, beaucoup de transports, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de systèmes scolaires, beaucoup de services en tout genre. Et ce qu'on a vu en France dans les années, depuis les années 80, d'une certaine manière, les métropoles et les villes moyennes supérieures ont beaucoup bénéficié des réformes de décentralisation. Et on a eu un cycle extrêmement important d'investissement public dans toutes ces formes. Ce qui fait que la vie dans ces villes, et encore une fois, je pense pas simplement à Paris vraiment, hein, faut penser sur l'ensemble des villes françaises, il y a eu énormément d'investissements qui ont amélioré la vie des habitants, que ce soit dans les parcs, dans les musées, dans les bibliothèques.
Contrairement aux villes moyennes inférieures, Patrick Le Gallès,
voilà,
qui, elles, se vident.
Notre système, ce qui s'est passé dans le système français, si vous voulez, c'est le déclin des préfectures villes industrielles et celles qui ont triomphé, c'est les capitales régionales. C'est un peu ce décalage-là qui s'est renforcé. Alors, villes moyennes, il y en a qui sont pas très loin des grandes villes, donc elles ont aussi beaucoup bénéficié, mais les villes moyennes qui étaient loin des grandes villes, elles ont été les perdantes de cette dynamique.
Sophie Chevalier, sur ces fractures qui se sont approfondies entre villes moyennes inférieures, disons peut-être moins de 100 000 habitants, et capitale régionale.
Oui, je pense qu'effectivement, au niveau des services qu'ils offrent, au niveau de l'éducation, il y a une fracture très forte qui s'est faite entre ces toutes petites villes qui avait peut-être un statut particulier il y a peut-être 50 ou 60 ans, et maintenant l'émergence de ces capitales régionales et bien sûr de la grande métropole parisienne. Et j'ai presque envie de dire que vous avez, si je reprends quelque chose qui avait été développé par une géographe Saskia Sassen, qui parlait de réseaux de grandes métropoles. Bon, elle parlait de Tokyo, New York, etc. Mais là, on voit se créer un réseau entre Paris et puis des villes provinciales assez importantes, hein, avec des circulations à la fois pour des raisons professionnelles entre ces villes, entre habitat et activités professionnelles. Voilà.
Et on va voir si ces circulations se renforcent avec la pandémie. Mais d'abord, encore un mot, Patrick Le Gallès, sur le fait que dans les grandes villes, non seulement il y a plus d'emplois, mais ils sont souvent plus stables, ces emplois, et aussi mieux rémunérés. C'est aussi cela qu'on vient y chercher.
On vient chercher cela. Alors insistons sur les deux aspects, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez eu sur les 30 dernières années une augmentation du nombre et une très forte concentration des emplois de cadres et de cadres supérieurs dans les métropoles, notamment la région parisienne, mais pas seulement. Mais c'est aussi dans les grandes villes que vous avez le plus d'emplois informels, de petites opportunités, de jobs possibles pour des migrants. C'est pour ça que les migrants viennent aussi majoritairement dans les villes quand ils arrivent quelque part, parce que c'est dans ces villes qu'on va trouver toutes les emplois dans de services, dans l'hôtellerie, dans la restauration et autres, qui vont leur permettre d'avoir un premier pas sur le marché du travail. Donc la ville, c'est à la fois des opportunités, on a beaucoup insisté, c'est aussi un lieu de l'oppression, de la domination, de l'exploitation. Donc c'est les deux ensemble, avec l'espoir que les choses s'amélioreront. Mais on sait que historiquement, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est la ville, c'est aussi la dynamique de la ville et ces dynamiques de marché du travail que j'évoque, c'est aussi des dynamiques qui vont créer beaucoup d'inégalités, mais de manière dynamique.
Sophie Chevalier.
C'est bien dans les interstices de la ville, en fait, que peuvent à la fois se loger ou travailler toute une population qui aurait de la peine à trouver sa place dans une ville plus petite ou dans le monde rural, j'ai envie de dire.
Et puis l'un des signes, peut-être, de ce retour en centre-ville, c'est le fait que certaines grandes enseignes qui autrefois s'installaient plutôt en périphérie ouvrent désormais des magasins dans les centres. C'est le cas emblématique d'IKEA qui a ouvert un magasin dans le 8e arrondissement de Paris à la Madeleine et qui s'apprête à en ouvrir un second rue de Rivoli. Qu'est-ce que cela nous dit, cela, Patrick Le Gallès ?
Ça nous dit d'abord que je pense qu'un des effets de la décentralisation, c'est aussi que les maires et les élus jouent un rôle plus important sur l'organisation de leur territoire. Et donc, ils sont soucieux de la vie de leurs habitants. Et puisqu'il y a un certain nombre de gens qui veulent vivre soit dans ces centres, soit pas très loin, ils ont contribuer à augmenter l'offre de services dans ces villes. Donc on a vraiment une dynamique qui on suit la population. Donc à partir du moment où il y a une population qui a voulu vivre dans ces centres-villes, on a des services qui vont aller d'eux-mêmes. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des gens, moi je trouve ce que je trouve intéressant, c'est qu'aussi il y a beaucoup de gens, le mode de vie urbain, il n'est pas si différent que ça. C'est-à-dire finalement, même aujourd'hui, dans beaucoup de parties, que ce soit dans le milieu rural, dans petites villes, les gens ont quand même des modes de vie très urbanisés. Parce que eux aussi peuvent commander chez IKEA et aussi peuvent commander et être sensibles à des modes de vie qui sont très urbanisés. Donc on dit un peu deux choses contradictoires. On dit d'un côté, il y a vraiment une différenciation des villes qui s'est passée dans les 40 dernières années, et en même temps, le monde est devenu beaucoup plus urbanisé, y compris pour les modes de vie de tout le monde. Vous voyez, on dit un peu deux choses un peu contradictoires, mais en fait, les deux sont vraies.
Mais alors cet attrait pour la grande ville dont on parle depuis le début de cette émission est peut-être en train de s'épuiser. Est-ce qu'on va assister dans les prochains mois, dans les prochaines années, à un exode vers les campagnes et les villes moyennes, notamment sous l'effet de la pandémie ? On en parle dans un instant.
Dans ma ville on traîne entre le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades.
France Culture, entendez-vous l'écho? Stéphane de Rocchini.
Après 22h, tu croises plus de gens, comme si on était encore sous les bombardements. T'entendras que les flics et le bruit du vent, quelques mecs de la fac en troisième mi-temps, qui devraient pas trop s'approcher du bord, quand ils vont se terminer sur le port, dans les quelques bars qui servent encore, où y'a des clopes et des anglais ivres morts. 5h du mat, la queue dans les kebabs en sortie de boîte. Tu peux prendre une pita ou prendre une droite, ou alors tu peux prendre le premier tram. Et si jamais tu t'endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville. Là où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement me balader, même quand on avait que dalle à acheter. Youhou, ouais. Le caddie des parents ralenti devant Pizza Del Arte, pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers, près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier, où tu peux voir les grandes tours des quartiers, où l'architecte a cru faire un truc bien. Si je rappais pas, j'y serais jamais allé, parce qu'on se mélange pas tant que ça la douche vient. Après y a des champs, y a plus rien.
Dans ma ville on traîne, Aurel San sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, l'anthropologue Sophie Chevalier, le sociologue Patrick Le Gallès sont toujours avec nous pour parler du choix de la grande ville. La Covid-19 a-t-elle remis en question ce choix? C'est la question que l'on va se poser à présent. Elle semble, en tout cas, cette pandémie, avoir accéléré une première tendance préexistante, Patrick Le Gallès, celle de la fuite des Parisiens vers la proche ou lointaine banlieue.
Absolument, donc ça c'est très important, c'est que c'est des choses qui ont commencé un peu avant, et notamment à cause de l'augmentation du prix du logement, hein, cette dynamique assez incroyable quand même, une augmentation du prix du logement qui fait que l'accès par exemple à la propriété est vraiment réservé à des gens qui ont soit des revenus très élevés, soit un héritage, donc c'est une logique d'accroissement des inégalités extrêmement forte. Et donc ce qu'on a déjà vu depuis quelques années, c'est la fuite en tout cas de Paris, c'est-à-dire que d'un côté on a de plus en plus de gens qui veulent visiter Paris, de visiter de peut-être fonds de pension ou de fonds financiers qui peuvent acheter des logements ou bien de gens qui vont acheter pour louer et du coup le renchérissement du logement a pour effet qu'une partie de la population ne peut plus s'y loger et donc va soit partir en proche banlieue soit partir en grande banlieue. Alors il y a toujours eu un effet cycle de vie, il y a toujours des gens qui sont quittés Paris pour aller en banlieue pour des raisons familiales, pour pouvoir élever leurs enfants avec une maison et un jardin, mais là ça s'est énormément accéléré et donc la ville de Paris perd de la population, alors qu'à l'échelle du Grand Paris on a plutôt un petit gain de population sur les 10 dernières années. Et puis l'Île-de-France, c'est relativement stable. Donc, mais d'une certaine manière, c'est un type de métropolisation. C'est-à-dire que c'est le centre qui est sous pression, mais la métropole reste relativement stable. Et comme vous savez, les métropoles régionales françaises continuent à attirer beaucoup.
Mais vous avez raison
de dire, c'est que la pandémie a accéléré ça et a posé plein de questions à beaucoup de gens qui se disent est-ce que c'est pas le moment de reconsidérer notre mode de vie. Et permettez-moi juste de faire un point. Ce qui se joue avec la pandémie, c'est aussi la conscience de la crise climatique. C'est la conscience que dans ces villes, on va avoir du réchauffement, on va avoir des sécheresses, on va avoir peut-être des problèmes d'eau un jour, on a des problèmes de pollution de l'air. Donc la pandémie, elle a aussi révélé et accentué la tendance à prendre en compte la ville comme un lieu de production de pollution et de contributeur à la crise climatique. Et je pense que c'est ça qui pourrait produire éventuellement un renversement.
Cette tendance, Sophie Chevalier, en faveur des zones urbaines moins denses, plus vertes, est liée, comme le dit Patrick Le Gallès, à la fois à la recherche d'une meilleure qualité de vie et aussi de villes où le réchauffement climatique peut-être se fait moins sentir.
Alors c'est vrai aussi que c'est lié à, on va dire, un moment du cycle de vie. C'est vrai que, comme dit Patrick, les prix d'immobilier sont très élevés à Paris. Donc c'est vrai que quand on commence à avoir un ou deux enfants, on finit aussi par se poser la question de savoir si on va pouvoir se loger d'une manière... Enfin, on a envie de se loger avec un peu plus d'espace. Donc ça, c'est le premier pas qu'on fait, hein, d'essayer de trouver un logement plus grand, donc de s'éloigner du centre. Quant à la dimension... Alors, il y a beaucoup de discours sur la ville qui va subir de plein fouet le changement climatique. Je ne suis pas vraiment sûre que la banlieue ou la campagne est tellement plus saine que la ville, mais je suis une citadine dans l'âme, donc
il y a des villes plus ou moins vertes, d'autres qui sont plus bétonnées.
Il y a des villes plus ou moins vertes. Et c'est vrai que Paris, l'urbanisme parisien, rend difficile, si vous voulez, de verdir la ville, malgré les efforts de la mairie d'essayer de replanter des arbres, de faire des toits avec des jardins, etc. etc. C'est vrai qu'il y a des villes qui sont plus difficiles à verdir, on peut le dire comme ça.
Les bons scores des écologistes dans certaines grandes villes comme Grenoble, Marseille, Bordeaux ou Lyon est lié à ce besoin de vert, Patrick Le Gallès. Il y a des projets qui vont en ce sens.
Oui, certainement, ça en fait vraiment partie. Donc c'est là où on voit bien qu'on a des modes de vie citadins un peu classe moyenne supérieure quand même, qui visent à privilégier la prise en compte de l'environnement, de la crise climatique et de la qualité de vie au sens environnemental du terme, parce que des cocktails bars, c'est aussi de qualité de la vie, hein, pour beaucoup de mes étudiants par exemple. Et donc ça, c'est clairement ce qu'on a vu dans ces dernières élections. Et ce qui est intéressant, c'est de bien voir que c'est des choses qu'on voit à l'échelle un peu mondiale, hein. C'est-à-dire que à l'échelle mondiale, on a toujours cette vague d'urbanisation qui se poursuit, mais dans un certain nombre de cas, les mégapoles sont en train de perdre des habitants. En Inde ou en Afrique, les plus grandes métro-mégapoles perdent des habitants. Donc on est encore dans une phase pour l'instant où on continue à avoir cette logique d'urbanisation et de renforcement des villes, mais peut-être moins des mégapoles et davantage des villes. Alors là, il y a un problème d'échelle. Ce qu'on appelle les villes moyennes, c'est pas les préfectures de 50 000 habitants, mais les villes de 300 à 3 millions d'habitants.
Hein, donc, c'est pas la même échelle.
C'est peut-être celle-là. Voilà, c'est pas la même échelle. Et ces villes-là, aujourd'hui, continuent à attirer. Mais peut-être, si vous avez un dernier point, il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi en termes de génération. Peut-être que dans la génération des, disons, des moins de 30 ans, il y a une partie de cette génération qui se dit que, qui rejette un peu le modèle de croissance et le modèle de compétition internationale et de capitalisme mondialisé et qui veut développer des alternatives. Et donc, moi, il me semble qu'on voit, qu'on commence à voir des groupes de population qui se disent, vous voyez, un petit peu comme on a vu après 68 et qui préfèrent faire le pari d'aller vivre dans des petites villes ou en milieu rural. Et puis, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des gens qui essaient d'avoir un pied de chaque côté, c'est-à-dire qui continuent peut-être à travailler, à passer du temps à Toulouse, à Lille ou à Lyon, mais qui passent une partie de la semaine ailleurs, dans une petite ville ou au milieu rural. Mmh. Moi, je pense que ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de gens qui essayent d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes.
Justement, oui, effectivement, est-ce que ce sont les plus jeunes qui partent aujourd'hui, Sophie Chevalier, et aussi, est-ce qu'avec l'essor du télétravail, il faut s'attendre à ce que de plus en plus de gens vivent loin de leur lieu de travail ?
Alors, je pense déjà qu'il y a un élément qui est assez important, qui est lié à ce qu'on a, on a raconté sur l'urbanisation de Paris en particulier, hein, le monde rural, enfin les ruraux qui viennent travailler en ville. C'est que ce qui caractérise quand même beaucoup le citadin français, c'est qu'il a souvent un pied à la campagne. Si vous regardez les statistiques, il y a à peu près 10% des logements en France qui sont des résidences secondaires. C'est quand même relativement important par rapport à d'autres pays européens.
Et elles ont connu un boom cette année en particulier, un réveil plus exactement.
Donc en fait, l'idée, c'est plutôt d'avoir un pied, comme dit Patrick, un pied dans les deux. Un pied mi-urbain pour le travail, pour peut-être la sociabilité, le mode de vie urbain, etc. Et puis, une position de repli pour avoir peut-être un bout de jardin, un peu plus de tranquillité, un peu de l'air peut-être un peu pur à plus pur à respirer.
Et ça, c'est facilité par les infrastructures de transport,
voilà,
notamment.
Tout à fait. Mais qui sont mis aussi à mal un peu avec la pandémie, hein, parce qu'il y a moins de transport, on a peut-être plus inquiet de prendre les transports collectifs, voilà.
Mais c'est un phénomène qui est encore assez difficile à mesurer, Patrick Le Gallet, ce départ des citadins vers des villes plus petites ou vers la campagne. On a du mal à le voir véritablement dans les chiffres que nous propose l'immobilier, même si on voit quand même que les maisons ont eu plus de succès cette année que les appartements, par exemple.
Voilà, mais c'est reste des choses. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas vraiment des chiffres particulièrement forts. Et moi, je crois que les logiques urbaines vont rester assez fortes pour les raisons de marché du travail qu'on a évoquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on a des flux, soit de gens qui veulent avoir un pied dedans, un pied dehors, soit des gens qui vont vraiment quitter les villes pour aller vivre dans des petites villes ou en milieu rural, même si c'est pas des flux hyper importants, le simple fait qu'on ait des flux qui aillent dans ce sens, il suffit pas forcément des très grands nombres pour revivifier des petites villes ou du milieu rural. Donc c'est quand même assez positif sur le rééquilibrage du territoire et sur les dynamiques. Et peut-être que ce qu'on est en train de voir, c'est des gens qui vont avec une certaine mobilité et qui vont à un moment donné vivre en ville et faire des choix un peu différents, un peu radicaux à certains moments. Mais gardez en tête aussi quand même par rapport à ce qu'on dit, on donne un peu une impression de mobilité et de changement. Je voudrais insister sur le fait que quand on regarde les chiffres de la mobilité, ce qui est frappant en France, c'est de voir que en moyenne, en gros, c'est assez stable. Mais à une époque, on avait quand même beaucoup de gens qui bougeaient vers les villes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les catégories les plus diplômées et les plus favorisées sont de plus en plus mobiles, soit parce qu'elles vont changer de logement, soit qu'elles vont jouer à l'international, mais qu'à l'inverse, une partie de la population française est de plus en plus immobile et reste sur place dans ses quartiers ou dans ses petites villes ou dans son milieu rural. Et ça, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que il faut pas penser que tous les gens ont le choix, quoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui, pour des raisons familiales ou des raisons de marché du travail, ont très peu de capacité à être mobiles. Et ça, c'est une des choses inquiétantes sur les évolutions territoriales françaises.
Mais la mobilité coûte cher, on le voit aussi avec les migrations, où ce ne sont pas les populations les plus pauvres qui peuvent se permettre de se déplacer et de migrer. Je voudrais vous faire entendre un extrait du film d'Agnès Varda, Sans toi ni loi, sur cette question du retour à la Terre, un film qui est sorti sur les écrans en 1985.
T'as la maîtrise de philo ? Qu'est-ce que tu fais là, alors ?
Retour à la Terre ?
Moi, c'est ce que je voudrais aussi. Avoir un petit bout de terre à moi, cultiver des patates.
Bon alors, la terre, ça rigole pas. Hein. Il faut être là quand il faut, au moment où il faut. Si tu veux un champ de patates, si tu veux faire tes patates, je te propose ça. Tu auras toute cette terre dessiperée jusqu'au fruitier. Voilà. Là, tu as pas mal d'espace. Tu peux y mettre tes patates.
J'y arriverai pas.
De toute façon, je vais te donner un coup de main. Hein. Je te laboure la terre, je te la herse, et ensuite tu poses tes plants. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux?
C'est toi qui veux rien. On t'a donné un bout de terre, t'en as rien fait. T'as rien à la tête.
Pourquoi? Faut absolument avoir quelque chose? Faut être absolument berger comme toi? Y'a pas que ta façon d'être marginale.
Ton marginal, t'es out, t'existes pas.
J'en ai rien à foutre de ta philo. Tu vis dans la même crasse que moi. Sauf que tu te fatigues beaucoup plus. Moi, si j'avais fait des études, je ferais pas comme toi. Parce que moi, ça m'a fait chier d'être secrétaire. J'ai quitté tous les petits chefs de bureau. Alors, c'est pas pour en retrouver un à la campagne.
Patrick Le Gallais, on a beaucoup parlé ces dernières années des néo-ruraux, ces citadins qui quittent la ville pour la campagne. Alors aujourd'hui, peut-être seront-ils plus nombreux avec la pandémie. On le verra dans les prochains mois et les prochaines années. Mais ce que l'on constate d'ores et déjà, c'est peut-être davantage, comme disait Sophie Chevalier, un retour vers ou un succès des maisons de campagne, des résidences secondaires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut d'ores et déjà constater.
Alors, deux choses différentes. Oui, on peut constater ça. Hein, donc là, parce qu'il y avait une baisse un peu de moyenne durée du nombre de résidences secondaires, une baisse progressive, assez régulière. Et là, au contraire, on a eu un regain, donc clairement, on voit ça. Mais d'autre part, on a vraiment des gens qui partent aussi vivre à la campagne, qui veulent aller s'occuper de la terre. Et c'est pas forcément des chiffres très, très importants, mais c'est quand même important, parce que c'est des gens qui vont chercher un autre mode de vie, qui vont chercher des alternatives. Vous avez quand même tout un ensemble de gens, il y a quand même un débat de société sur quelle société on veut vivre. Dans quelle mesure on peut inventer des alternatives. Donc il y a quand même toute une réflexion dans beaucoup de cercles pour essayer d'aller dans d'autres lieux que la ville, pour penser des alternatives et essayer d'élaborer d'autres modes de vie. Donc ça peut peut-être devenir, comme ça l'a été à une époque, un lieu d'innovation, où on peut être extrêmement bien connecté au reste du monde et où on essaie de penser un peu différemment, y compris ces pratiques quotidiennes de nourriture, par exemple, en ayant en tête la crise climatique. Donc je pense que là encore, vraiment j'insiste sur cet effet de crise climatique, je crois que cette prise de conscience qui est en train de se faire progressivement, elle va avoir des effets sur les choix de vie que vont faire beaucoup de gens. Certains vont peut-être trier leurs poubelles et d'autres vont décider qu'ils vont se mettre en permaculture. Mmh. Et on a quand même, c'est pas des chiffres très très importants, mais on a des flux qui vont progressivement dans ce sens-là. Et la pandémie a accentué cela. Il y a eu beaucoup de jeunes dans différentes villes qui pensent à ça, qui vont dans ce sens-là, qui font ce choix-là. C'est pas des très gros nombres, mais en tout cas, ça apporte une diversité dans l'évolution qui est la nôtre.
Et peut-être que ce ne sont pas encore de très grands nombres parce que il n'y a pas de politique volontariste de l'État qui va dans ce sens. Il y a la question de la revitalisation de certaines petites villes qui se posent, Sophie Chevalier, ce qui avait beaucoup fait parler de soi au moment de la crise des Gilets jaunes, cette absence, cette disparition des services publics.
Oui, c'est surtout la question des transports. Je veux dire, s'installer à la campagne, ça veut dire aussi pouvoir disposer d'un transport de qualité et qui n'est pas trop coûteux. Hein. Donc on avait vu avec la crise des Gilets jaunes, ça a été justement déclenché par cette impossibilité d'avoir des transports à bas prix pour peut-être sortir justement de petites villes, de petits lieux pour aller chercher du travail. Hein. Et donc, la question du transport me semble être au cœur d'un transport qui se résume pas au TGV entre les grandes villes, hein, mais un transport accessible à la population qui va permettre justement peut-être à d'autres groupes sociaux d'accéder à un autre mode de vie dans du périurbain, voire le rural.
La question du transport, voilà. Patrick Le Gallais, va être absolument clé, tout comme celle des services publics.
Alors, la question des services et des transports, elle est certainement clé. C'est effectivement les services, pour beaucoup de gens. À un moment donné, la question se pose de, par exemple, on a beaucoup pensé à un moment donné que les retraités partiraient massivement en milieu rural. Beaucoup l'ont fait, notamment dans les milieux populaires. Mais il y a aussi beaucoup de retraités qui préfèrent habiter dans les petites villes pour avoir accès à des services de santé, par exemple. Donc, l'accès aux services, ça dépend de où vous en êtes dans votre cycle de vie, les enfants pour le lycée, etc. Et puis d'autres, à l'inverse, veulent penser un peu à l'écart de cela. Mais clairement, ça reste une dynamique très très forte. Alors, ces services, ils sont pas forcément publics non plus. Hein. C'est-à-dire que il ne faut pas penser que l'État peut tout faire. Non, ce n'est pas vrai que l'aménagement du territoire est capable de tout transformer tout seul. Il peut y contribuer. Mais si on arrêtait l'aménagement du territoire en France dans sa version classique, c'est que ça ne marchait plus. Hein. Donc, c'est pas simplement parce qu'il y a eu un manque de volonté politique. C'est que ça ne produisait plus les effets qu'on espérait. Donc, ce qu'il faut aussi penser, c'est que on est sans doute à un moment donné où l'organisation de ces services, ce qu'on voit dans les dynamiques sociales et dans les dynamiques un peu d'innovation, c'est que on a de plus en plus de manières d'organiser ces services, par exemple avec des applications dans les villes. Mais on a aussi des applications en milieu rural dans les petites villes. Et puis on a aussi, Et ça, c'est quand même très intéressant en termes de dynamique. De plus en plus d'associations, de groupes de citoyens, de groupes divers et variés dans des quartiers ou dans des petits villages qui essayent de prendre en main la fourniture de ces services. Donc ce qui est en train de se jouer aussi, c'est pas forcément la reproduction du modèle classique service public. C'est peut-être plus que ça. D'abord, les coupes, on n'a pas forcément les moyens d'avoir des services partout. C'est aussi d'autres manières de penser la production de ces services et leur utilisation.
Et dans le même temps, ces centres-villes ou ces grandes villes qui se vident, cela entraîne un certain nombre de changements. Je vous propose de partir du côté de Marseille, dans le quartier populaire de Noailles, un quartier qui, selon ses habitants et qui le regrette, a déjà commencé à changer.
Avant, ceux qui venaient manger ici, c'était soit des militants de gauche, soit l'intelligentsia berbéro de gauche qui venaient manger là. Aujourd'hui, quand on voit le public qui est ici, je ne sais pas dans quel guide ils sont, dans quel TripAdvisor et tout ça, mais on voit très clairement qu'on a une clientèle de touristes, d'Américains, de bobos, de voilà. On a le nouveau Marseille qui est là, quoi.
C'est quoi les bobos ?
J'emploie ce terme avec beaucoup de désespoir et de paresse, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité. Les bourgeois inavoués, moi je dis. Voilà. En même temps, Marseille, c'est une des dernières villes d'Europe où il y a encore des classes populaires au centre-ville. Parce que tu vas à Paris, les classes populaires, elles ne sont plus au centre-ville. Il reste Naples, Perpignan et Marseille. C'est les trois villes. Exactement. C'est les trois villes méditerranéennes où tu as encore des mondes populaires au centre-ville. Et moi, je considère que ça devrait être un patrimoine et pas considéré comme un problème.
Il faut que ça reste populaire, non ? Et ça restera, hein ? Ça restera, je pense, encore des années. Il faut garder ça. Moi, j'aimerais pas que ça...
Vous voulez pas que ça devienne un musée ?
Un musée, non. J'aimerais pas. J'aimerais que
ça soit... Un parc d'attractions, non plus ?
Un parc d'attractions, non plus.
Voilà, l'anthropologue Michel Peraldi et Mustapha, le gérant d'un restaurant de Noailles, dans un podcast de Binge Audio du 28 janvier 2020. Alors, il y a plusieurs inquiétudes qui entourent les quartiers centraux. Sophie Chevalier, la gentrification, on en a parlé, mais aussi la Disneylandisation de ces espaces.
Disons aussi, il y a une sorte de patrimonialisation de l'environnement, particulièrement à Paris, puisque là, à la fois l'architecture est protégée, les arbres, on peut pas planter n'importe quel arbre. Enfin bon, il y a tout un ensemble qui fait qu'on n'espère pas vivre un jour dans une sorte de décor. Hein, ça. Mais en même temps, c'est ce décor qui fait l'attractivité de la ville, c'est ce décor qui circule à travers des films, des séries télévisées, des séries sur Netflix, sur des images, des romans, etc. Donc en même temps, c'est bien ça que les gens de l'extérieur viennent reconnaître quand ils viennent à Paris.
C'est une manne économique et en même temps, ça contribue à uniformiser peut-être sociologiquement la ville en faisant partir les classes moyennes et les habitants les moins aisés, Patrick Le Gallès.
Oui, tout à fait, c'est ça le risque. Hein. Donc, c'est-à-dire que en gros, les villes ne se vident pas, les villes sont plutôt en forte croissance, sauf les villes industrielles et les petites villes en crise qu'on a évoquées tout à l'heure. Puis, il y a ce que vous évoquez très justement, c'est-à-dire que dans un certain nombre de villes, ce patrimoine est tellement valorisé qu'il attire tellement de touristes qu'on voit on parle de surtourisme dans un certain nombre de villes, ce qui a pour effet de standardiser, d'organiser la ville, non pas pour les habitants ou même pour les gens qui passent, mais vraiment en fonction des besoins des touristes ou des gens qui ont les moyens d'acheter des résidences secondaires dans ces villes. Et donc, dans tout un ensemble de villes, on a ces tensions très fortes. Et ça, c'est des choses qui peuvent être en partie réglées, en tout cas, par des politiques urbaines. Donc là, les élus ont quand même des capacités assez importantes pour pouvoir contrer ces phénomènes. Ça prend un peu de temps, ça demande un peu d'organisation. Et puis, on a parfois des habitants qui protestent. Vous avez, par exemple, à Berlin, des quartiers, des groupes qui sont mobilisés contre ces effets d'embourgeoisement et parfois de gentrification. On l'a vu aussi dans d'autres villes. Donc, c'est vraiment... la ville, c'est toujours un lieu de conflit, de contradiction. Et bien là, ça fait partie des nouvelles contradictions et des nouveaux conflits qui sont en train d'organiser ce que vont devenir ces villes.
Alors, on arrive au terme de cette passionnante discussion. Un dernier mot, Sophie Chevalier, sur la place aujourd'hui qu'occupe la grande ville dans la géographie française du logement.
Je pense qu'elle occupe encore une place importante. En particulier, Paris occupe une place importante, ou les grandes capitales régionales, parce que c'est lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi à toute une représentation imaginaire de ces villes-là, avec des images qui circulent un peu partout dans le monde. J'ai une petite anecdote. je mène aussi des travaux en Afrique du Sud, où j'ai été vivre avec ma famille. Et quand ma fille est arrivée à l'école, j'ai entendu deux petits garçons qui disaient « Eh, regarde, cette fille, elle vient de la ville de Ratatouille. » Donc voilà, on voit bien que ces images...
Paris, c'est Ratatouille.
Paris, c'est Ratatouille. Ils savaient sûrement... Peut-être qu'ils savaient que ça s'appelait Paris, ils savaient sûrement pas que c'était en France, ni en Europe. Donc il y a vraiment des images mondialisées hein, et qui rendent attractives ces grands centres urbains. En tout cas pour les visiteurs, peut-être pas nécessairement pour venir y habiter.
Patrick Le Gallès.
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Sophie. Les imaginaires urbains restent très puissants, l'urbanisation se poursuit, ces villes sont les acteurs clés de la mondialisation, mais elles sont aussi des lieux fragiles. Hein. Mmh. Elles sont contestées politiquement de plus en plus. C'est aussi des lieux où la crise climatique aura des effets extrêmement difficiles. Il y a beaucoup de besoins d'organisation et de politique pour faire quelque chose par rapport à ça. C'est aussi des lieux fragiles en termes de sécurité, en termes de mélange de population. Donc, on ne sait pas combien de temps cet imaginaire urbain extrêmement positif, disons, dans la vie d'aujourd'hui, va se poursuivre. Et on peut imaginer, parce qu'historiquement, on a toujours eu des renversements, à un moment donné, un renversement, et ce qui est vu comme très valorisant aujourd'hui en termes de mode de vie urbain, peut-être, va devenir de plus en plus critiqué et remis en cause. Et donc, il n'est pas impossible qu'on ait, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, un retournement, et un retournement aussi de ces imaginaires urbains.
Un retournement que l'on s'efforcera d'analyser et on sera ravis de vous entendre à nouveau sur ces questions, peut-être dans 15 ans, Sophie Chevalier, Patrick Le Gallès. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je rappelle Sophie Chevalier, anthropologue, professeur à l'Université de Picardie, Jules Verne, et Patrick Le Gallès, politiste et sociologue, directeur de recherche au CNRS. Un grand merci.
France Culture,
merci à vous.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine et bonjour à tous.
Suspense pour l'industrie minière en Nouvelle-Calédonie. Alors qu'un long conflit paralyse la production, l'État intervient et le dilemme du nickel brille plus vivement. Or gris ou métal du diable ?
Eh bien d'abord, métal indispensable de l'inox et des batteries, mais pour l'instant, avec les manifestations et les blocages, c'est plutôt un minerai inutile pour le cinquième producteur mondial. Sur les trois usines de l'île du Pacifique, la plus grande, celle du Brésilien Vale, au centre du conflit, est à l'arrêt depuis un mois sans repreneur. La deuxième vient de se déclarer hier au bord de la faillite et la troisième, lancée en 2008, n'est toujours pas rentable. Ainsi, ces trois petits cochons de la mine qu'on assimile à 10% grosso modo du PIB de la Nouvelle-Calédonie se retrouvent face aux grands méchants en loup, dette colossale, concurrence prédatrice et pour leurs 10 000 emplois directs et induits, le chômage. Les usines de nickel ne sont pas une industrie immortelle, prévenait déjà sur la première le journaliste Alain Janin en décembre. Outre les dégâts matériels, disait-il, 5 000 tonnes de minerais, soit 100 millions d'euros ont été perdus. Même les actionnaires de ces usines sont écartés des bénéfices de la flambée des cours actuels, remarque un expert des marchés dépité. Le London Metal Exchange n'a jamais été aussi haut depuis 2019, dit-il. Cela aurait dû porter les usines calédoniennes et surtout l'usine de Vale qui était sur la voie d'un coût de production positif, sans commentaire.
Donc l'État intervient pour sauver la principale usine ou la paix sur l'île, Xavier ?
Eh bien, pour autant qu'on comprenne, le blocage politique s'ajoute aux difficultés économiques, puisque cette usine du Sud fait travailler 3000 personnes et sa reprise par un consortium local et international impliquant le géant suisse Trafigura, que soutient le gouvernement français, est bloquée depuis son annonce l'année dernière. En effet, un collectif Usine du Sud, Usine Pays, allié aux représentants kanak et aux indépendantistes, le rejette, dénonçant, je cite, un projet de spéculation et de prédation des ressources. Depuis un mois, donc, il bloque les deux usines qu'il ne possède pas pour le faire échouer. Et lundi, le ministre des Outre-mer a finalement proposé que l'État s'implique plus fortement, dit-il, c'est-à-dire entre au capital pour débloquer la vente. Alors même si la nationalisation n'est pas la solution, poursuit-il, en jeu désormais, selon Le Monde, ce sont les 51% de la majorité au conseil d'administration, prise de contrôle transitoire par l'État ou prise de contrôle pérenne par les Calédoniens, comme le propose la présidente de la province du Sud. En tout cas, ce serait une baisse des 25% initiaux du Suisse Trafigura. Ainsi, après le référendum, les indépendantistes gagneraient une bataille symbolique sur un terme majeur, car les ressources en nickel font partie des accords de Nouméa et de Matignon. L'État réussirait à conserver l'outil stratégique et tout le monde, comme dit le ministre, pourrait sortir par le haut.
Alors cette main tendue suffira-t-elle à sortir l'industrie calédonienne du bourbier du nickel ?
Ah, eh bien, l'État intervient pour au moins deux raisons. Hein. D'abord, rappelle Le Monde, il est financièrement exposé sur chacun des sites. Le nickel des usines du Sud et du Nord indépendantistes est défiscalisé. Dans celle du Sud, il a réinjecté 500 millions d'euros et garanti des prêts pour des mises aux normes environnementales. Et puis, l'État est actionnaire du français Eramet, qui possède la deuxième usine de l'île, l'historique SLN, société Le Nickel. Ensuite, derrière la reprise de Valais, c'est toute l'industrie minière calédonienne en sursis qu'il faut relancer rapidement dans un marché mondial où se battent les géants indonésiens, philippins, canadiens, chinois ou finlandais. Et puis, Tiffaine, attention au rhinocéros gris.
Un rhinocéros gris, Xavier, expliquez-nous ça.
Eh oui, du titre d'un livre de l'américaine Michelle Vooker sur ces crises prévisibles que les décisionnaires choisissent d'éviter, écrit dans Asialiste Sandrine Tessonner, pour mettre en garde contre un problème, selon elle, inévitable pour l'industrie calédonienne. Une équation économique délicate, dit-elle, où les coûts élevés de la main-d'œuvre impliquent une âpre lutte pour la compétitivité. Le pays qui produit le nickel le plus cher du monde est confronté à une crise prévisible et prévue. Pour l'ex-financière, la Nouvelle-Calédonie serait donc victime d'une malédiction du nickel, comme il y a des malédictions du pétrole, faible rentabilité, mauvaise redistribution, faible croissance. D'ailleurs, précise la première, Valais n'aurait dû être rentable que cette année avec un nouvel alliage pour les batteries. La société Le Nickel ne l'était que depuis septembre, mais le redécollage est maintenant interrompu. Et pour Sandrine Tessonner, c'est le moment de retomber sur ses pieds en sortant de la dépendance au nickel et en diversifiant l'économie.
Diversifier l'économie ou intensifier la production de nickel, c'est le dilemme calédonien.
Eh bien, c'est un peu ça en ce moment, ou depuis le boom des années 70, hein, c'est selon. Les cours s'envolent et avec un cinquième des ressources et la capacité de produire pour les batteries, l'île peut être une place forte dans la filière des téléphones portables ou des véhicules électriques qui va faire quintupler la demande de nickel calédonien d'ici 2025, assurait le directeur général de la société Le Nickel il y a un peu plus d'un an. Et puis la France et l'Union européenne qui visent 25% de part de marché en 2025 dans les véhicules électriques ont besoin de ressources pour l'Airbus des batteries lancé l'année dernière, mais la concurrence est vive. La Chine, premier destinataire des exportations de nickel calédonien en 2018, la Corée du Sud qui aurait fait une offre alternative avec les indépendantistes pour reprendre l'usine du Sud, ou encore l'Australie dont un premier groupe s'était aussi placé l'année dernière avant de se désister subitement. Alors or gris ou métal du diable, le nickel rare est bien sûr cher à extraire, mais aussi, rappelait Philippe Chalmin, le spécialiste dans Le Monde en 2005, c'est un condensé de nombre de problèmes géopolitiques de la planète. Alors entre le serpent de mer de la diversification ou celui d'une hésitante nouvelle Nickelédonie, eh bien Tiffaine, où est le mirage ?
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre journal de l'écho, je le rappelle, est à réécouter sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France. Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée avec Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levaché. À la technique aujourd'hui, Laurie Vachon. Demain, après la France des lotissements et les grandes villes, on se penche sur la campagne et le désir de ruralité. Nous serons en compagnie de la géographe Claire Delfos et de la sociologue Catherine Bûcher. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.